Oui, bonjour, ici Jean-Michel Leroy au Mans. Ce matin, je prends mon train pour aller à Paris, en gare du Mans, rempli de flics, voilà, des partout, en uniforme, avec des brassards rouges, en civil. Ils descendent dans les couloirs d'accès au train pour contrôler, évidemment, tous les faciès, les blacks, principalement. Je pense que c'était, ce matin, un épisode de Monsieur Sarkozy en campagne. À bientôt.
Un modeste témoignage de cette sombre époque. J'allais à pied au lycée Michelet et je passais tous les jours au boulevard Victor, le long du palais des sports, pour éviter de traverser la place de la porte de Versailles qui était assez grande. Un matin, des militaires empêchaient de passer sur ce côté du boulevard, m'obligeant à faire le détour. Il y avait des cantines et des citernes militaires sur le trottoir, le long du bâtiment, et j'ai encore dans l'oreille le bruit d'un grondement sourd, comme une sorte de brouhaha qui semblait provenir du bâtiment. J'ai appris par la suite ce qui se passait. C'est loin, mais je me souviens très bien le sentiment d'horreur qui m'a pris à l'explication des faits le soir en rentrant à la maison. Jean, 58 ans.
J'ai écouté là-bas si j'y suis aujourd'hui. J'ai été quand même étonné de ne pas entendre à aucun moment parler de Élie Kagan. Élie Kagan qui a pris des photos sur le vif et à l'époque. Personne ne voulait de ces photos. Il a réussi à les faire passer à Témoignage Chrétien et aussi à, je crois, une presse américaine. Il a fallu quelques années pour que France Observateur, je crois, les reprenne. J'ai été moi-même travailleur à la SNECMA, quai du Point du Jour, et le 19 octobre 61 au matin, en équipe du matin, on a vu des pompiers qui était là et qui ramassait soi-disant des noyés. Et la CGT et les organisations syndicales ont, dans la semaine qui a suivi, fait un certain nombre de manifestations à Boulogne-Billancourt. Paul de Saint-Pierre-la-Bruyère.
Merci d'évoquer la mémoire d'Élie Kagan, ce photographe qui avait réussi à arracher quelque chose à l'oubli avec les clichés qu'il a fait effectivement le soir du 17 octobre 1961. Merci d'évoquer sa mémoire, d'autant que c'est un de mes grands regrets, parce qu'en 1991, lorsqu'on a fait une première série d'émissions sur le 17 octobre 1961, j'avais appelé Élie Kagan pour lui demander s'il voulait témoigner. Et on m'avait dit qu'il avait des difficultés financières, qu'il vivait très très pauvrement, difficilement en tout cas, et ça s'était mal passé. Voilà, entre nous, j'avais pas compris qu'il était en difficulté, il demandait un peu d'aide financière, etc. J'avais dit non, enfin bon, ça s'était mal passé, et finalement j'ai pas fait l'entretien, j'ai pas recueilli le témoignage de ce bonhomme formidable, et c'est un de mes grands regrets. Il est disparu depuis, et voilà, donc j'apprécie d'autant plus qu'on évoque aujourd'hui sa mémoire. Mémoire aujourd'hui sur France Inter avec une journée archive. Ça, voilà une bonne idée, voilà une très très bonne idée que de faire parler un peu nos archives, nous qui, gens de radio, c'est-à-dire gens de son, c'est-à-dire gens de parole, on avance comme des gommes, c'est-à-dire qu'on oublie, on est des décisifs comme tous, bien sûr, mais particulièrement à la radio, où tout s'éloigne, tout s'évanouit sans cesse. On n'a pas, comme ceux de l'écrit, des archives aussi bien ordonnées. On a la chance aussi à France Inter d'avoir Jeannine Marc-Pezet, qui est notre mémoire, qui est celle qui a la culture de la mémoire radiophonique et que nous aimons tous et que nous vénérons tous, Jeannine Pezet. Donc aujourd'hui, pour cette journée d'archives, on va aller dans les archives de là-bas si j'y suis, qui mettent en scène des archives sur le futur, puisqu'on est dans le passé, dans l'histoire, dans la mémoire, le futur. Pour être plus clair, que disait-on de l'an 2000 dans les années 50? Comment voyait-on l'an 2000 dans les années 60, 70, 80, etc. On avait voulu voir ça. Comment témoigner? Comment le futur s'est peu à peu évanoui? Comment l'avenir, peu à peu, a disparu de la doxa, du langage commun, des idées générales? Cet avenir qui, comme disait Pierre Dac, n'est jamais que du passé en préparation. Alors on s'était interrogé là-dessus, sur comment a-t-on vu l'an 2000 dans les archives radiophoniques de l'INA. C'est tout de suite ce spécial archive de la base Si J'y suis, après encore quelques messages qui un jour deviendront, j'espère, des archives parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base Si J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Troisième suicidé en quelques mois chez Renault. Mon mari, 50 ans, travaille depuis 30 ans chez Peugeot. Il a été promu par la direction régionale de Toulouse conseiller technique. Nouvelles conditions de travail, accueil des clients avec leurs doléances, réparation sous contrôle des temps à respecter, tutorat de deux jeunes, paperasse liée aux normes de qualité. La direction n'a pas supporté qu'on leur impose leur conseiller. S'en est suivi 2 ans de harcèlement, ordre de vider les poubelles en plus du travail et ordre de nettoyer les toilettes. Eh oui, la suite logique, suivi médical, mis sous antidépresseur. Mon mari a réussi à négocier un licenciement, à condition qu'il évoque sa démission auprès de la direction régionale. J'ai fait bouillir la marmite pendant 2 ans. Il a pris en charge toute l'intendance de la maison. Je ne sais pas quelle aurait été l'issue sans le soutien de la famille ou tout simplement si je n'avais pas eu de travail. Travailler plus pour gagner plus, telles que sont les conditions de travail aujourd'hui, alors faudra pas s'étonner que ce qui fait l'actualité aujourd'hui fera l'actualité de demain. Oui, c'est un peu triste. C'est Dany, au revoir.
Je voulais vous dire que je suis très émue par l'histoire d'Irène que je viens d'écouter à l'instant avec beaucoup d'attention. Un parcours vachement émouvant, ça m'a un peu secouée, ça m'a un peu scotchée, quoi. Et malgré un passé plein de malheurs, elle a su garder, j'ai l'impression, la force et le moral. Et ça m'a un peu mis sur le cul, j'allais dire. Je suis très émue, quoi. Et je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde, quoi, avec son chien Fanfan. Et je lui souhaite plein de bonnes choses, qu'elle soit heureuse, quoi.
Bonjour, un petit message pour rappeler le repère de là-bas si j'y suis, ce jeudi 22 février, à partir de 20h30 à la Pitchoulie, à Chaland, c'est situé en Normandie. La Pitchoulie, c'est place de l'Abbé Grelier, près du Beffroi. C'est informel, convivial, tous les sujets peuvent être abordés, mais peut-être bien qu'on y parlera des OGM. Salut, à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Eric Defrano à Gérardmer dans les Vosges. C'est pour vous dire que le repère de là-bas si j'y suis a lieu ce soir à 20h30 au bar Le Grattoir au boulevard Kelch. Et nous parlerons des conditions de travail. Chacun apportera un peu son histoire et racontera un peu ses conditions de travail, que ce soit dans la fonction publique comme l'hôpital ou que ce soit dans les boîtes privées. Donc à ce soir, 20h30 à Gérardmer au bar Le Grattoir. Merci, bonne journée. Au revoir à tous.
Comment vivrons-nous en l'an 2000 ? C'est ce que nous demandons ce soir à 4 observateurs de la vie future. Raymond Thévenin va mener le débat.
1984.
En écoutant ça, vous vous dites « mais c'était hier » et c'est bien la preuve que l'an 2000, c'est demain.
1967.
La préfiguration de l'an 2000, les Français sont raisonnables et optimistes. L'enquête révèle, par exemple, que la vie sera beaucoup plus agréable, qu'un voyage dans l'espace ne sera pas dangereux, que l'eau de mer sera utilisée couramment, que l'on pourra se déplacer par fusée individuelle, mais bon vivant, le Français estime aussi que l'on boira plus de bon vin que l'on absorbera de médicaments.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil et l'an 2000, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour, une émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin. Comment vivrons-nous en l'an 2000 ? C'est ce que nous demandons ce soir à 4 observateurs de la vie future. Raymond Thévenin va mener le débat.
Avant que nous ne commencions cette discussion, M. Delatille nous disait à peu près ceci. En 50 ans, le mécanisme, si l'on veut, de la civilisation moderne a fait des progrès considérables. Est-ce que dans les années qui viennent, nous allons avoir des inventions pratiques aussi importantes que celles du téléphone, que celles de la télévision, que celles de la radio, etc. Voilà, si vous voulez, le sujet que nous pourrions prendre comme thème de discussion ce soir. Pierre de Latil.
Je suis pleinement de cet avis. Il n'est aucun doute que si nous avions tenu une réunion semblable à celle-ci en 1900, nous aurions eu à promettre aux hommes le téléphone, la téléphonie sans fil, la télévision et le cinéma et encore beaucoup d'autres choses, ne serait-ce que la machine à laver aussi. Et devant nous, nous n'avons certainement pas, à mon avis, autant de merveilles à promettre. Car à mesure que l'on en réalise, autant il y en a moins à réaliser.
Parler de l'avenir n'est pas de la tarte. Dans la crainte que vous n'ayez pas tout à fait saisi la pensée du professeur de Latil, éminent cybernéticien qui nous parle ici en 1955 sur la radio nationale, nous vous repassons sa réponse. Je vous demande d'écouter très soigneusement.
Je suis pleinement de cet avis. Il n'est aucun doute que si nous avions tenu une réunion semblable à celle-ci en 1900, nous aurions eu à promettre aux hommes le téléphone, la téléphonie sans fil, la télévision et le cinéma et encore beaucoup d'autres choses, ne serait-ce que la machine à laver aussi. Et devant nous, nous n'avons certainement pas, à mon avis, autant de merveilles à promettre. Car à mesure que l'on en réalise, autant il y en a moins à réaliser.
L'an 2000, tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on en a parlé, tel qu'on l'a prophétisé depuis 50 ans, ici même, à la radio. Guy Vanctil a traîné dans les archives de l'INA pour essayer de voir comment on a vu le futur, voir un peu ce qu'on pourrait appeler déjà le passé de l'an 2000. C'est une balade à la recherche du futur perdu. On a dit un jour « rendez-nous le futur ». Il y a un moment où l'an 2000 était absolument magnifique, il était très beau. Ça, c'était il y a très longtemps. C'était un monde merveilleux, plein de robots, de fusées. La mer aurait un goût de limonade, disait Fourier. C'était le progrès, c'était la modernité. Et tout ça provenait du 19e siècle industriel. Cette formidable aventure, faut-il citer Wells ou Jules Verne. La guerre de 14, avatar, peut-on dire, de cette révolution industrielle, n'a pas entièrement calmé les ardeurs dans cette foi du progrès. Souvenez-vous, par exemple, du succès de la fée électricité à l'exposition de 1937. À quel moment avons-nous cessé de croire au futur ? L'apogée est-elle bien située en 1969 lorsque l'homme marche sur la Lune ? En tout cas, dans les années 70, choc pétrolier, fin des 30 glorieuses, les punks braillent « No future », le progrès n'a plus la cote. L'Union soviétique bat de l'aile. Il faut vraiment beaucoup, 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 de plus en plus d'aveuglement pour y croire. Et petit à petit, le futur, l'avenir, le progrès vont se retourner pour faire place à une angoisse, une inquiétude grandissante dans les esprits et dans les mots et dans les émissions de Radio France. C'est uniquement dans ces émissions qu'on va se balader aujourd'hui de 1949 à ces dernières années. Comment la vision du futur a changé, a basculé. Des prophéties parfois judicieuses, souvent à côté de la plaque, parfois rigolotes de stupidité, mais ça, on sait que lorsqu'on s'aventure à prévoir, eh bien, c'est les risques qu'on encourt. Mais on part dans cette balade avec la pensée de Saint Augustin aujourd'hui, sur le présent, le passé et le futur. Saint Augustin disait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Il y a le présent du présent, il y a le présent du passé et le présent du futur. C'est une très haute pensée. une pensée qui va s'illustrer aujourd'hui. Parce que dans chaque moment où l'on parle du futur, on parle du présent. Vous allez voir comment on peut établir des liens entre les prévisions et chaque moment, chaque événement de ces années passées sur nos antennes.
Allons vers l'an 2000, avant que l'an 2000 ne vienne à nous.
Voici l'an 2000 et j'en peux plus marcher.
Des soucoupes, des petits hommes verts.
Allons 2000.
Mais écoutez-moi, merde!
Argent de l'an 2000, je ne vous souhaite pas.
Cette guerre civile terrible qui un jour nous arrivera.
En l'an 2000, l'an 2000, l'an 2000.
C'était simple, jadis. Derrière nous, il y avait quoi donc ? Les ténèbres, l'obscurantisme et la barbarie. Et devant nous, qu'est-ce qu'il y avait ? Eh bien, la lumière, l'avenir radieux. En quoi on voyait ça ? Eh bien, le progrès. Demain, ce sera vachement mieux. C'est avec cette idée qu'on se couchait un peu tous les soirs, comme les Shadocks, en se disant que ça ne pouvait que s'améliorer. Après tout, c'est pas si stupide de rappeler ça, parce que ça a duré une trentaine d'années dans notre bel hexagone et dans un certain nombre de pays qui nous ressemblent autour de nous, de 45 à 75. Demain, ce sera vachement mieux. Et puis, il y a eu un virage. Mais tout au cours de ces années, et depuis la nuit des temps, depuis que les hommes se tiennent debout, mettons, eh ben ils essayent de savoir ce qui va arriver, et ça, ils ne peuvent pas s'en passer. Parfois, c'est le futur qui l'emporte, c'est la promesse d'un paradis terrestre, d'un avenir qui ferait qu'on supporterait, que ce paradis soit terrestre ou non, qui ferait qu'on supporterait les avatars du présent, et que cette putain de saloperie, de mort d'une façon ou une autre, serait dissoute, qu'on arriverait à la miner. Voilà comment, en 1955, avec speaker et son de radio, les sons qu'a trouvé Give sont autant de petites madeleines pour les oreilles, pour ceux qui ont un peu de bouteille, mais pour les plus jeunes aussi, parce que plus on s'approchera, c'est ce que disait le monsieur, plus ce sera proche d'aujourd'hui. Et voilà comment on parlait en 1955 à la tribune de Paris de ce qui va avoir lieu l'an 2000.
1955.
Maintenant, dire que même dans, d'une façon générale, comme le dit très monsieur de Latil, on ne peut pas prévoir le téléphone, on ne peut pas prévoir d'autre chose que le téléphone, on ne peut pas prévoir d'autre chose que ceci ou que cela. Évidemment, si l'on borne le jugement à ce qu'a prévu, mettons, Jules Verne, on peut dire qu'évidemment, on ne va pas trouver tel ou tel truc. Mais il est très vraisemblablement qu'on trouvera dans l'énergie atomique des moteurs de plus en plus petits, qu'on arrivera à réduire l'inégalité technique entre les nations en faisant des piles breeders. Il est très vraisemblablement que dans les petits dispositifs, on arrivera à faire des postes de TSF extrêmement petits, et que toutes les inventions qui se rapportent au fond à l'utilisation de nos cinq sens seront de plus en plus élégantes, de plus en plus perfectionnées, de plus en plus prodigieuses. Qu'il y aura des machines à calculer qui seront évidemment extraordinaires et qui font sourire nos petits-enfants quand ils considéreront les machines ENIAC et autres aujourd'hui, celles qui sont actuellement nos prodiges.
Et la machine ENIAC, j'avais jamais entendu ce mot-là, eh bien c'était l'ancêtre des ordinateurs aujourd'hui, comme quoi on voyait bien que c'est par là que ça allait se passer. 1967, générique tout gaulien, tout pompeux, voix de speaker et de speakerine statutaire.
1967.
Enquête et commentaires. Une revue de l'actualité politique et économique dirigée par Pierre Sandal.
Aujourd'hui, l'éditorial de Pierre Sandal, Millennium. Jean Rabaut s'entretiendra avec Julien Cheverny, auteur du livre Les cadres. Enfin, le livre d'Anne-Marie Gouachon, Jordan Irréel, sera commenté par Jacques Madol.
L'an 1000, on le sait, fut à ce point redouté par ceux qui l'appréhendaient qu'un vent de panique provoqua mort et désastre annonciateur de l'apocalypse. Nous avons appris qu'un savant américain, le professeur Herman Kahn, de l'Institut de Lutzen, était venu apporter la bonne parole sur l'an 2000 aux membres du club Jean Moulin, qui compte nombre de technocrates et experts. Après 6 années d'études et de recherches sur ordinateur, avec, dit-on, 95% d'idées simples et 5% d'idées complexes, il est arrivé à ce qu'il faut bien appeler le triomphe de la prospective. Sur les 6 milliards d'habitants de la Terre, 10% auront atteint le stade post-industriel, caractérisé par un revenu 50 fois supérieur à ce qu'il était dans les sociétés pré-industrielles. Nous avons la satisfaction particulière de constater que les Français seront dans cette présélection. 30% parviendront au stade post-industriel précoce, tandis que 50% auront accès à la consommation de masse que connaissent actuellement les pays les plus avancés. Le reste se situera entre les pays industrialisés et les pays en voie d'industrialisation. Faut-il le dire, l'arsenal technique sera des plus impressionnants, robots remplaçant les membres déficients, appareillages électroniques correspondant avec le cerveau humain. Ce que l'homme ne voudra pas faire, très souvent l'ordinateur s'en chargera, même les conférences par exemple. Laser et maser permettront de se chauffer, de souder, de communiquer, que sais-je encore. Citons encore le cinéma et la télé à 3 dimensions, les sources nouvelles d'énergie, comme les champs magnétiques, la régulation des climats, l'exploitation des océans, etc. Voilà qui nous change du tableau noirâtre et apocalyptique qui hante certains esprits. Non, sans quelque raison d'ailleurs. Nous acceptons aussi volontiers la conclusion selon laquelle toutes les prévisions antérieures ont toujours été dépassées et qu'il en a été tenu compte dans la mise en place du plan prospectif. Alors, il ne reste plus aux responsables nationaux qu'à poser aux ordinateurs la question de savoir ce qu'il faut faire face aux prévisions du professeur Kahn.
C'était l'éditorial de Pierre Sandal.
Voilà, la réponse était dans les cigares, les tronches des ordinateurs. Mais vous le voyez, l'avenir était absolument radieux. C'est à celui qui aurait le plus bel avenir devant soi. Voilà ce qu'on disait le 26 décembre 1967 lors d'une émission fameuse à l'époque qui s'appelait Interactualité. Interactualité. Beaucoup de ces émissions sur l'an 2000, de prospectives, de prévisions, de plans sur la comète et de regards forcenés dans les boules de cristal, avaient lieu, tout ça sous un dehors scientifique, avec le spécialiste, grave, guindé, péremptoire. Tout ça avait très souvent lieu en fin d'année. Comme on passe l'année, on dit tiens, on va aller plus loin, on va voir comment ça va se passer en 2000.
1967.
Venons-en maintenant à la page magazine d'Interactualité. C'est donc la guérison du cancer et la disparition de la guerre qui préoccupent le plus les Français. Le sondage d'opinion publique de l'IFOP vient confirmer notre propre sondage réalisé par les journalistes de France Inter et les journalistes de province. Pour nos auditeurs, la guerre du Moyen-Orient et la guerre du Vietnam sont considérés comme les problèmes majeurs de l'année. La santé morale, à l'occasion du crime de Versailles, et la santé tout court, à la lumière de l'expérience de la greffe du cœur des chirurgiens du Cap, ont également retenu l'attention de nos auditeurs. La préfiguration de l'an 2000, eh bien les Français sont raisonnables et optimistes. L'enquête révèle, par exemple, que la vie sera beaucoup plus agréable, qu'un voyage dans l'espace ne sera pas dangereux, que l'eau de mer sera utilisée couramment, que l'on pourra se déplacer par fusée individuelle, mais bon vivant, le Français estime aussi que l'on boira plus de bon vin que l'on absorbera de médicaments. Il est à remarquer aussi que les Français ont une espérance en ce qui concerne la longévité. Ils envisagent volontiers qu'en l'an 2000, la moyenne d'âge sera de l'ordre de 100 ans. C'est un souhait, mais c'est un souhait qui peut être réalisé, car les experts, les savants, pensent que d'ici l'an 2000, on aura réussi à allonger la moyenne de vie de l'ordre de 50 ans. Cet optimisme dans la science, cet optimisme dans le progrès, est également d'ailleurs un des enseignements de ces sondages. Ce n'est plus le progrès qui fait peur, le progrès qui intimide, mais c'est en somme le progrès de l'espoir.
Alors là, il faut commencer à parler d'espoir. Ça ne va plus tout à fait de soi. On est en 67. Quelque chose a basculé dans l'histoire du siècle au cours des années 60. Les experts sont plus ou moins, sont plus ou moins d'accord. 64, 65, 66. En tout cas, avant 66, mes chers confrères Baby Boomer, ça s'est passé un petit peu avant. En tout cas, après 68, le ton a changé. Sur la radio nationale, c'est pas évident, les nouvelles arrivent un peu tard, vous savez, c'était encore l'ORTF, la police à l'ORTF, c'est la police chez vous, on n'a pas oublié. En tout cas, quelque chose a un peu changé, écoutons voir.
1968.
Alors maintenant, je dois passer la parole, c'est logique, au professeur Henri Péquignot, professeur à la faculté de médecine de Paris.
Moi, il y a une chose qui, je pense, vous étonnerait, vous, en l'an 2000, c'est que vous arriveriez, vous trouveriez vaincu un certain nombre de maladies qui, probablement, aujourd'hui, vous font peur. Et que les hommes de l'an 2000 ne seront pas du tout satisfaits de ces progrès. Ils ne penseront qu'aux progrès qui n'ont pas été faits, car plus on donne de la vie à l'homme, moins il semble s'habituer à l'idée qu'il est mortel et qu'il peut être frappé par des infirmités, par des maladies. Alors je dis que c'est ça qui vous étonnerait le plus, mais si vous me donnez la parole encore une seconde, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui, alors moi, m'étonnerait de façon extraordinaire si c'était réalisé. C'est si à ce moment-là, l'humanité de l'an 2000 était arrivée à faire bénéficier la population de la planète, quelle qu'elle soit, des découvertes scientifiques, non pas de l'an 2000, mais des découvertes scientifiques qui ont été faites il y a 10 ans, il y a 20 ans. Je ne parle pas de celles d'aujourd'hui.
Ce même 27 décembre 1968, là, on écoutait Inter sans frontières. Voici une autre émission qui s'appelait Interactualité, qui était présentée par Yves Mourouzi. Et là, on voit que les choses commencent à basculer. Le futur n'est plus aussi gai, n'est plus aussi souriant qu'il l'était jusque-là.
1968.
Voilà donc pour les principales informations de la matinée. Jean Maas, vous êtes dans notre studio avec un invité qui est exactement un sociologue, Paul Vieille. Paul Vieille, vous venez de publier dans la revue 2000, Avenir, Aménagement du territoire, les résultats d'une enquête que vous avez menée auprès de lycéens de 10 à 18 ans. Et la question que vous leur avez posée, comment sera la société française dans une trentaine d'années en l'an 2000 ? Pensez-vous que ces jeunes de 10 à 18 ans soient les plus aptes justement à répondre à cette question ?
Eh bien, c'est justement ce que montre cette enquête, c'est la différence considérable qui existe entre les plus jeunes, les enfants de 6e et 5e, et ceux plus âgés de seconde, première et terminale.
Et alors, ils jouent, les plus jeunes, jeu de l'an 2000.
C'est ça, ils jouent au jeu de l'an 2000, très exactement.
Oui, je le vois là, à travers une réponse d'un élève de 6e, n'est-ce pas ? Je crois qu'on peut de même la relater au micro, n'est-ce pas ? Les rues des grandes villes sont en plastique, et lorsque les fusées passent, elles se reflètent sur les parois. Eh bien, ça, évidemment, vos interlocuteurs de 17-18 ans ne disent pas de choses comme cela.
Non, à 17-18 ans, ce jeu est abandonné. Vraiment. Et alors, ça commence à être une véritable panique, si je puis dire, enfin une angoisse sur l'avenir. Je me souviens, une des premières réunions que j'ai eues, une des premières interviews que j'ai eues avec des enfants, qui n'étaient d'ailleurs pas très âgés, c'était des enfants d'ouvriers en général, 15 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, qu'est-ce que sera l'an 2000 ? C'est le béton, disparition de la nature, et c'est le chômage. Le chômage parce que l'automation aura supprimé le travail.
Deux formules me semblent en définitive, et pour terminer, résumer assez bien l'esprit de tous ces jeunes que vous avez interrogés. Pour un enfant de cinquième, l'an 2000 symbolise l'avenir, et l'avenir, l'évolution, le progrès. Et pour un garçon de première, l'an 2000, s'il existe jamais pour l'humanité, n'est qu'une année dont le millésime se termine par 3-0 et n'a pas d'autre intérêt. Je pense que c'est une bonne conclusion. La conclusion, peut-être, Jean Mars, nous la tirerons ce soir au cours d'Inter sans frontières, puisque autour du micro de France Inter seront en direct avec les auditeurs un certain nombre de spécialistes, de techniciens qui ont une vue prospective de ce que sera l'an 2000. Pour les interroger, il vous suffira d'appeler Bagatelle 2040 de 20h22 à 22h, très exactement. Et maintenant, nous allons rejoindre Robert Pouillet à la Bourse de Paris.
Eh bien, il existe encore un très bon courant d'affaires. Un très bon courant d'affaires anime en effet la bourse en cette fin de semaine, mais l'irrégularité est de nouveau la tendance.
Ah oui, on parlait déjà de la bourse, mais le CAC 40 était juste dans un coin du petit écran à cette époque-là. La politique, avait-on dit, ne se faisait pas à la corbeille. On en faisait encore de la politique, et elle transparaît dans ces émissions que nous suivons, sur, ayant toutes pour... thème l'avenir, mais plus précisément l'an 2000. L'an 2000, ça voulait dire l'avenir, c'était pas quelque chose d'aussi précis que pour nous aujourd'hui. On sourit évidemment face aux bévues des uns et des autres, mais après tout, rien de plus valeureux que de savoir où nous allons. Nous voulons savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Et parmi ceux qui se sont plantés, il y en a de très fameux. Un certain Albert Einstein, par exemple, avait dit en 1932, avec une belle assurance, « Il n'y a pas la moindre indication que l'on puisse obtenir un jour de l'énergie nucléaire. »
1968.
Dans le monde, il y a encore la misère, la faim, les vieillards qui manquent de tout, et les hôpitaux qui ne soignent pas les malades comme ils doivent être soignés.
Alors ça, oui, c'est une question fondamentale, évidemment. C'est tout le problème de l'organisation et de la répartition des richesses qui sont créées par la science et par la technique. Pierre Pathé.
Alors à ce moment-là, il faut lire Jacques Dubois.
Dans les sociétés très avancées, par la force des choses, il n'y aura plus de pauvres. L'Amérique, qui n'a jamais eu aucun sens social, précisément maintenant qu'elle est vraiment de plus en plus riche, eh bien, elle le fait. Elle prend les Noirs, qui étaient la partie rejetée de la chose, et leur donne les moyens de vivre. Il reste encore un fonds de pauvres en Amérique, mais on s'aperçoit que c'est en train de diminuer d'année en année, n'est-ce pas? Parce que le pays a les moyens de le faire. Le jour où un pays a les moyens de le faire, inévitablement, quand même, il le fera. Alors en Europe, où il y a toujours eu un esprit social beaucoup plus développé, il est certain que l'an 2000, s'il n'y a pas une catastrophe, il n'y aura plus de personne dans le besoin, ça n'existera plus.
Alors il faut replacer cette aveugle confiance dans l'Amérique et dans l'Europe à une époque où deux blocs s'affrontaient. Le communisme était une religion, on l'a dit et redit, mais le progrès de l'autre côté, de notre côté, du bon côté, de l'Ouest ou du monde libre, était encore une religion qui était menacée. Mais on est encore en 68. On rêve, on pense qu'on peut vraiment changer la vie, qu'on peut changer le monde. Et voilà comment, lors d'une émission de fin d'année, notre Claude Villers tient le rôle de la voix de l'Amérique.
Et puis, si vous me permettez de donner une opinion personnelle, c'est aussi tout le problème de l'information. Je crois que les sources d'information se multiplieront de plus en plus, qu'il sera de plus en plus difficile de faire, permettez-moi l'expression, du bourrage de crâne, et que les hommes auront les éléments pour juger.
Il sera aussi de plus en plus facile de faire du bourrage de crâne.
Croyez-vous, les sources d'informations se multipliant et...
Mais qui aura le monopole des sources d'informations en l'an 2000?
René Marchand?
Oui.
Oui, je crois qu'il faut ajouter quand même sur le problème de la liberté individuelle, c'est que de moins en moins les gens ne travailleront. Et il y aura de plus en plus de loisirs, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Mais par exemple, les Américains ont calculé que d'ici l'an 2000, il y aura 3 mois de vacances et qu'un membre seulement de la famille travaillera quand il aura besoin d'argent. Ce qui veut dire que, bien sûr, il y aura de plus en plus de voyages. Donc ça, c'est un côté quand même agréable de l'an 2000. Et par exemple, l'aller-retour Paris-New York coûtera moins de 100 dollars, c'est-à-dire moins de 50 000 francs anciens, moins de 500 francs.
Et il aura donc beaucoup de temps pour écouter, je reviens au problème de l'information, les informations qui lui seront données aussi bien par Moscou que par New York que par Pékin, et il pourra sans doute se faire une opinion. Non, le professeur Péquignot n'est pas d'accord.
Alors c'était il y a 30 ans, en 1968, Claude Villers était correspondant de France Inter à New York, et voilà, donc 3 mois de vacances, et puis l'équivalent de 500 à 600 francs pour aller jusqu'à New York, c'est quand même un peu plus cher que ça. Quant aux 3 mois de vacances, nos amis américains, les États-Uniens, sont encore très loin. Au sujet de l'information, les craintes qu'exprime l'un des invité sur l'information est assez fondée. En revanche, à l'époque, jeunes gens, il y avait un ministère de l'information qui avait pour charge de contrôler ce qui se disait dans le poste, que ce soit le transistor ou que ce soit la télé, et c'était un contrôle sérieux. Alors, bien sûr que tout le monde souhaitait que l'information se multiplie, arrive par de multiples canaux sous un tas de formes, que ce soit la diversité de l'information. Aujourd'hui, on est arrivé peut-être à la réalisation de ce sombre pronostic, à savoir que l'autre forme de la censure est en cours de réalisation, à savoir que trop d'infos tue l'info et que nous vivons la tyrannie de la communication.
Allô ? D'où appelez-vous, madame ?
De Paris, monsieur.
Posez votre question.
Eh bien, je serais intéressée de savoir si l'essai actuel d'imaginer la vie dans 30 ans, 32 ans, est totalement nouveau, ou bien s'il y a 32 ans, ce qui se passe actuellement avait pu être scientifiquement imaginé.
Alors, le professeur Péquignot voudrait vous répondre.
Toute prévision se fait, sauf guerre ou révolution.
Les péremptoires n'ont pas changé. Hein, c'est toujours les questions péremptoires de l'homme au micro face à une question d'une auditrice qui était particulièrement pertinente, à savoir, est-ce qu'on a prévu dans le passé ce qui se passait aujourd'hui ? Eh oui, je me souviens d'amis russes à Moscou, de journalistes, de grands journalistes russes avec qui nous parlions il y a quelques années, je crois que c'était en 91, et je leur posais cette question, quel est votre futur ? Et l'un des journalistes m'a dit, mais comment veux-tu qu'on te dise quel sera notre futur, puisque dans 5 ans, mettons, c'était une question de l'an 2000, on ne sait pas ce que sera notre passé. Eh oui, un passé, un présent, un futur, voilà les questions. On continue cette balade donc dans les archives de Radio France, de l'INA, sur les émissions qui, au cours des 50 dernières années, ont traité de l'an 2000. Ici, 26 décembre 1969.
1969.
Que sera la France en l'an 2000 ? Comment, à cette époque, les Français vivront-ils ? Cette double question a été posée au cours d'un colloque réunissant de nombreux spécialistes, économistes, médecins, architectes, sociologues, syndicalistes agricoles, techniciens de toutes disciplines. Ils ont envisagé des perspectives encourageantes, mais ils ont été également d'accord pour reconnaître que notre société secrétait de terribles menaces.
Ces problèmes, comment peut-on les appréhender ?
En réfléchissant aux tendances à présent visibles, dont il est à peu près certain qu'elles iront se prononçant, et en regardant les conséquences que comportent ces tendances.
Pouvez-vous donner des exemples ?
Un exemple extrêmement simple, c'est à l'heure actuelle la pollution des mers et notamment des plages. La Méditerranée devient un cloaque au large de la côte de Californie. On voit partout des puits de pétrole dans la mer, n'est-ce pas, les dériques, et on voit des flaques de pétrole se répandre sur la mer.
Voilà. C'est-à-dire que l'on risque, en l'an 2000, de ne plus pouvoir prendre de bains de mer.
On peut à peu près exclure les bains de mer pour l'an 2000, du train dont nous allons.
Alors, c'était l'époque où les écolos apparaissaient, des journaux comme La Gueule Ouverte, par exemple, apparaissaient. Je me souviens d'un certain Fournier qui était un remarquable dessinateur. Et ce courant qui était en train de dire « mais on est en train de foutre la planète en l'air » a été vite écrasé par... par quelle force ? Ah, allez savoir.
1968.
Il est certain que la production d'énergie électrique d'origine nucléaire va poser un problème nouveau et redoutable, car les déchets radioactifs sont mortels par leur radiation. Aussi bien, on s'en est préoccupé dès à présent, alors que l'exploitation industrielle de l'énergie atomique n'est pas vraiment commencée. Et les dispositions qui sont prises, et qui le seront systématiquement dans l'avenir, permettent de n'entretenir aucune inquiétude à ce sujet. En particulier, on retraite les combustibles nucléaires irradiés, on sépare les éléments qui ne sont plus utiles, on les enferme dans des containers de ciment que l'on immerge à grande profondeur, et si le procédé ne paraît pas suffisamment sûr dans l'avenir, on envisage même de les satelliser, voire de les envoyer dans l'espace sur des trajectoires ne permettant pas le retour sur la Terre. Donc, de ce côté-là, je crois qu'il n'y a pas à craindre de pollution supplémentaire.
Voilà, soyez sans inquiétude, Françaises, Français, Jacques Legros de la Direction Générale de l'EDF nous rassurait en ce 27 décembre 1968 et envisageait, présageait, et alors lui l'anticipait sur ce qui allait se passer quelques années plus tard lorsque le nuage radioactif de Tchernobyl allait arriver jusqu'à la frontière française, se dire « Ah, mais non, c'est la France, je ne vais pas entrer en France » et contourner notre pays pour aller menacer les pays voisins. Voilà comment l'histoire se racontait et on voit comment les schémas se sont installés et sont toujours fréquentés. C'est un petit peu comme les émissions qui sont toujours les mêmes, c'est le même moule, mais les modes changent, le langage change un peu, et les génériques changent, il y a un habillage musical qui change et qui est fait de l'air du temps, c'est les petits airs du temps. Voilà, en 1970, Boris Kuznetsov, qui est cybernéticien et qui nous donne des explications scientifiques.
1970.
En l'an 2000, c'est une intersection, un croisement des tendances que nous pouvons maintenant déterminer. Vers l'an 2000, l'énergie atomique sera la composante dominante de l'électroénergétique. Les lasers seront les piliers dominants de la technologie. La génétique des radiations sera grandement utilisée. Avec le cloître du siècle, appelé siècle atomique, commencera une nouvelle époque des civilisations basée sur l'application de la physique des particules élémentaires qui naissent sous nos yeux.
Eh bien voilà, n'est-il pas vrai ? Un tour d'horizon large et suggestif. Très, très science-fiction et cependant très scientifique. Il serait bien étonnant qu'une émission comme celle-ci, dont j'ai la responsabilité, existe encore avec le même titre, en l'an 2000. Mais ce qui est certain, c'est que la place de la science et des techniques en marche prendra, sous quelque titre que ce soit, une place de plus en plus importante à la radio et à la télévision.
Une musique moderne, un présentateur sûr de lui, sur l'avenir de la science, le tout puissant avenir de la science que certains n'ont pas hésité à qualifier de religion moderne. On connaît l'adage, la science sans la conscience mène à bien des désastres. Ce siècle en a été abasourdi, écrasé, ratatiné. Le bilan qu'on peut faire de ce siècle qui a déjà été fait, peut-on dire, puisque pour la plupart, ce siècle est mort en 90 et nous ne faisons depuis qu'arpenter ce cadavre pourrissant. Samedi de France Culture, le 11 décembre 1971, appréciez l'audace de l'indicatif.
1971.
dans la perspective du deuxième millénaire. L'an 2000, c'est peu de choses, car après tout, ce n'est qu'un chiffre. Et cependant, c'est un seuil. Même si, mathématiquement, ça n'est pas prouvé, il y a à l'intérieur de chacun la certitude intuitive que quelque chose est en train de se passer qui fait que nous ne pourrons pas vivre comme nous avons vécu jusqu'à maintenant. Mais bien sûr, l'homme est un animal qui s'adapte et nous travaillons dans l'idée, dans la prospective que cela se passe bien.
Le triomphe du comique pédant. Alors, donc, on est là en décembre 1971, et là, il va se passer vraiment une révolution copernicienne. Au lieu d'aller toujours vers les scientifiques, les universitaires, Radio Sorbonne, ceux qui ont la parole et ceux qui la portent, les maîtres du maître mot, on va oser, et ce jour-là, c'est en tous les cas à cette époque-là, on va oser tendre des micros à des petites gens, à des gens ordinaires. Et ça, c'est une révolution extraordinaire. Et les gens ordinaires disent des choses qui ne le sont point.
Je vois le monde dans 30 ans où il y aura de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne connaîtra jamais son voisin. Quand on pense comme ça que l'automatisme maintenant crée l'individualité dans chaque personne, c'est-à-dire que il a contact, les plus grands contacts qu'il a c'est avec la publicité, avec la radio, la télévision, et je pense qu'il y a de moins en moins des contacts humains. Je pense qu'on est mal barré, quoi.
Question à des jeunes d'un centre d'inadaptés sociaux, France Culture, 11 décembre 1971.
Ce monde évolue tellement vite, on se demande vraiment où c'est que ça va tendre, tout ça. Parce que d'un autre côté, on dirait que l'homme cherche à vivre, cherche à s'épanouir, et d'un autre côté, il se bloque lui-même par ses inventions, par ses découvertes. Ou alors on s'apercevra à temps que, justement, tout ce qu'on connaît, ça peut être canalisé dans un intérêt commun, justement dans une recherche de contact, ou alors ça sera une sorte de fin du monde par la destruction de la sensibilité. L'homme finira par où il aura cru vivre.
Le problème avec l'avenir, c'est que ça continue pas comme ça. On dit toujours, si ça continue comme ça, oui, mais ça ne continue jamais comme ça. Néanmoins, nous sommes ainsi faits, nos esprits et nos âmes sont ainsi faites que nous voulons absolument savoir ce qui va se passer. Voilà André Malraux, qui fut ministre du général de Gaulle, éminent écrivain, éminent homme d'inspiration, parfois un peu vague.
1974.
J'ai le sentiment que ce qui nous arrive n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité. Peut-être la fin de l'Empire romain, mais j'en doute, parce que ça s'est passé beaucoup plus lentement. Ça ne s'est pas passé dans une vie. En ce qui nous concerne, j'ai connu les fiacres. Bon, et puis j'ai connu la bombe atomique et pas mal d'autres choses, la chimie du cerveau. Je ne crois pas qu'il y ait un siècle de l'histoire de l'humanité qui représente une aventure humaine aussi extraordinaire que le nôtre. Mais néanmoins, je crois aussi que nous sommes à la veille d'un changement immense. Tout le monde en a parfaitement conscience, mais personne n'a tellement conscience de ce dont il s'agit.
1975.
France Culture, 17 mai 1975. Dialogue.
L'an 2000, André Clément de Coufflet, vous avez présenté un ouvrage dans cette collection archive chez Gallimard à propos de cette année fatidique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est à la fois espérée et redoutée?
j'ai été amené à centrer un certain nombre de mes propos de liaison entre les différents textes que je cite autour du thème espoir et angoisse, qui vient naturellement à l'esprit.
Alors les espoirs, ils sont minces, semble-t-il.
Écoutez, je sais que on a dit et on va continuer à dire à propos de ce livre qu'il est pessimiste, en ce sens qu'il met davantage l'accent sur les angoisses, les peurs, les craintes que sur les espoirs. Bon, c'est clair, oui. Me poser à brûle pour point la question de savoir quels sont pour moi les espoirs, bah, disons que ils se circonscrivent dans la mesure où un certain nombre de grosses catastrophes pourront être évitées, ce dont je ne suis pas sûr du tout, par ailleurs.
Donc un espoir négatif?
Non, pas un espoir négatif, mais un espoir qui doit être de plus en plus militant.
Oui, alors angoisse, Daniel Garrigue, je trouve ce matin à la page 2 du Figaro un article de Raymond Aron, Le retour de la peur atomique, illustré par un magnifique champignon. Est-ce que ce n'est pas cette angoisse, André Clément de Coufflet?
Oui, enfin, c'est une des catégories des grandes peurs que j'ai cru pouvoir indiquer dans mon petit livre, avec l'obsession de la surpopulation et d'autre part la crainte de déséquilibre écologique irréversible.
On commence à se rapprocher de nos jours, là. On est en 1975, bon, il y a 24 ans, une génération. Alors, il arrive que le futur se réalise. Il arrive que les hommes, toujours en proie à cette obligation urgente, fervente, qu'est la liberté, pas la liberté de ne pas être libre, tâchent de pouvoir infléchir quelque chose de leur destinée. Et, par exemple, eh bien, ils construisent des villes, ils dessinent des villes, ils construisent des villes. Pierre le Grand le fit à Saint-Pétersbourg, une ville entièrement préméditée, comme Ispahan, et comme Évry, ville nouvelle. Et oui, le voilà, le futur. Comment appréciait-on ce futur le 17 mai 1975 sur France Culture?
Vous pensez que c'est la ville de l'an 2000, ici?
Alors là, j'en sais rien. Hein. Peut-être. Enfin, moi, j'imagine autrement. Hein. Mieux conçu que ça. Parce que là, vraiment, quand vous voyez les bâtiments qu'ils ont faits, là, c'est vraiment des cages à lapins. Quand vous voyez, c'est vraiment les uns sur les autres. Hein.
Personnellement, là, je pense pas que la ville de l'an 2000, ça soit ça. Pour moi, c'est la ville 1976. C'est tout.
Vous pensez que c'est la ville de l'an 2000, ici?
Non, pas du tout. Hein.
Comment?
Pas du tout, du tout. Hein. Pas du tout, parce que on regardait déjà aux nouvelles galeries, ils débauchent, à Euromarché, ils débauchent, dans pas mal de petits magasins, ils débauchent. Je vois pas du tout l'an 2000 là-dedans. Hein. Et puis les gens, ils vont passer 5 ans là-dedans, ils vont s'enlacer, ils vont aller voir les autres magasins qui vont ouvrir pour voir, et puis ça sera pareil. C'est une chaîne qui va pas finir.
Comment vous la voyez, la ville de l'an 2000?
Oh, je sais pas, je la vois pas du tout d'abord. Je vois pas du tout comment ça pourrait être, mais enfin, ça sera pas comme ça.
Vous pensez que c'est la ville de l'an 2000 ici?
Je me demande si les gens aiment tellement, parce que je me demande s'ils vont pas être un peu isolés, en fait. Je sais pas, dans nos centres commerciaux, tout le monde va acheter, mais à part ça, par exemple, à Évry, à Cueil, il y a une bonne femme, et elle dit que personne ne vient lui parler, en fait. Elle est toute seule, toute la journée, et elle s'ennuie. Alors, je sais pas.
C'était « Comment voyez-vous l'an 2000 ?», une émission préparée et montée par Guy Vonctil pour « Là-bas si j'y suis » de Daniel Mermet. Merci aux documentalistes de l'INA, Catherine Louis et Catherine Denis, et merci à Janine Marc-Peset qui a organisé cette grande journée d'archives sur France Inter. D'ailleurs, si vous voulez prolonger cette découverte des archives radiophoniques, alors rendez-vous demain dans « Là-bas si j'y suis » pour la suite de cette émission. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec et Eric Morin. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Colliane Guyen, assistée par Charlotte Perry. Et le chef du répondeur, Christophe Imbert, attend avec impatience vos messages au 01 56 40 37 37.